de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, tels que les journaux, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'UNESCO établit Pencaksilat comme patrimoine culturel immatériel. Rencontre le président Jokowi, Global Infrastructure Partners cible les trois domaines d'investissement. Le train rapide Jakarta-Bandung et le train léger sur rail, ou TLR, seront achevés en 2021, a déclaré Jokowi. L'Indonésie et l'ASEAN collaborent avec des agences internationales pour lutter contre l'extrémisme. L'Indonésie espère le soutien de Singapour pour lutter contre la maladie des crevettes. Et enfin, l'Indonésie a réaffirmé son engagement à l'UNCLOS dans la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. Voici le journal complet. Pencaksilat a été désigné par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel lors de la 14e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Bogota en Colombie du 9 au 14 décembre. Concernant cette détermination, Edi Marzuki Nala Praia, ancien président de Pencaksilat mondial 1980-2010, a déclaré à la Voix d'Indonésie que la nation indonésienne doit être reconnaissante et fière de la détermination de l'UNESCO sur Pencaksilat. Je propose à l'UNESCO que les Indonésiens soient fiers et respectent sa propre culture. Tandis que l'autre personne, l'UNESCO, l'a soulevé comme culture indonésienne. C'est donc l'esprit des Indonésiens. Si silat est la culture, parce que Pencaksilat n'est pas seulement les arts martiaux, mais pour la vie, car il peut former des personnages pour devenir un homme noble. C'est l'enseignement de silat. Edi Marzuki Nala Praia, comme l'un des figures qui propose Pencaksilat à l'UNESCO, expliquait que l'UNESCO accepterait Pencaksilat. Il a fallu une longue lutte dans la recherche des données et des documents authentiques sur Pencaksilat de toutes les régions de l'Indonésie aux Pays-Bas. Les preuves obtenues ont été soumises à l'UNESCO en 2014. L'ancien président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a rencontré le président Joko Widodo au Palais Merdeka Jakarta vendredi pour discuter d'un certain nombre d'investissements à réaliser par Global Infrastructure Partners en Indonésie. Kim, qui est maintenant l'un des partenaires de Global Infrastructure Partners, a rencontré le président indonésien et le ministre de coordination des affaires maritimes et des investissements, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut a déclaré que le président Joko Widodo avait approuvé trois investissements de Global Infrastructure Partners en Indonésie. Luhut espère que Global Infrastructure Partners commencera à entrer en Indonésie en 2020. Pendant ce temps, Jim Yong Kim a déclaré que Global Infrastructure Partners avait une grande confiance pour le président Joko Widodo. Le président Joko Widodo a examiné la construction du projet de train léger sur rail ou TLR Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi et le projet de train rapide Jakarta-Bandung récemment. Les deux projets, chacun a une valeur d'investissement de 29 millions rupiah. Il devrait achever à la fin 2021. Avec cela, les transports de Jakarta et Bandung seront intégrés. Cet examen a été effectué par Jokowi et un certain nombre de ministres sur la route APS élevée Jakarta-Cikampek 2 qui venait d'être inaugurée. Cette route à péage sera gratuite au moins jusqu'au début 2020. Selon le président Jokowi, les deux projets seront intégrés entre les transports, par exemple par la gare, le bus Transjakarta jusqu'à la gare LRT de Halim Perdana Kusuma. Les pays membres de l'ASEAN collaborent avec des agences internationales pour lutter contre l'extrémisme à travers le groupe de travail multisectoriel du plan de travail de Bali 2019-2025 et la réunion des partenaires de l'ASEAN à Nusa Dua, Bali, du 11 au 12 décembre. Selon le chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, le commissaire général de la police Suhardi Alius, la participation de cet organisme international maximisera davantage le traitement de l'extrémisme, viol et de la déradicalisation transfrontalière. Suhardi Alius, dans son communiqué de presse récemment, a déclaré qu'aujourd'hui, le problème de l'extrémisme et viol était un problème très réel, de sorte que la participation d'organismes internationaux tels que l'ASEAN, l'ASEAN des États-Unis pour le développement international, USAID, le Fonds des Nations Unies pour l'enfant, UNICEF, l'Organisation internationale du travail, OIT, et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, étaient urgentes. La République d'Indonésie et Singapour explorent les possibilités de coopération en matière de quarantaine et d'aquaculture afin d'améliorer les performances des secteurs maritimes et halieutiques des deux pays. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Edi Prabowo, a déclaré vendredi dans un communiqué de presse à Jakarta que sa partie a discuté des questions avec Singapour, entre autres concernant l'interdiction de plusieurs géniteurs de crevettes entrant en Indonésie en raison d'une maladie. Le chef de l'agence de quarantaine des poissons et de contrôle de la qualité des produits de la pêche, Rina, on a besoin d'une coopération et d'une coordination avec les autorités singapouriennes pour empêcher l'entrée des géniteurs de crevettes en Indonésie. L'Indonésie a même demandé un soutien à la quarantaine de Singapour pour vaincre la maladie. L'Indonésie a réaffirmé son soutien à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ou UNCLOS, qui promeut l'état de droit et le droit mondial en mer lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les océans et les droits de la mer à New York récemment. L'ambassadeur ou le représentant permanent adjoint indonésien auprès des Nations Unies, Muhammad Kakoba, a souligné qu'en tant que pays comptant plus de 17 000 îles et 100 000 km de côte, l'Indonésie accorde une grande importance à la mer. L'Indonésie a également exprimé son soutien à la mise en œuvre des résolutions sur l'océan et le détroit de la mer pour surmonter les grands défis des questions maritimes, y compris le problème de la pêche illégale, la criminalité transnationale organisée, la destruction du milieu marin et la sécurité et la sûreté maritime. L'Indonésie encourage également toutes les parties prenantes à renforcer leur coopération pour garantir la sécurité et la sûreté maritime. Serge Ritard, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serge Ritard, bonsoir. Voici donc les infos d'Indonésie. La première information est venue d'Agam, Sumatra occidental. Au total, quatre fleurs de Rafflesia arnoldi fleurissent simultanément à deux points de population à Jorong Data Simpang Dingin, Negari Paninjau, le district de Tanjung Raya, la résidence d'Agam en province de Sumatra occidental. Le contrôleur d'écosystèmes forestiers du Centre de conservation des ressources naturelles du Resort d'Agam, Ade Putra, a affirmé récemment à Lubuk Basung que deux des quatre fleurs de Rafflesia étaient en pleine floraison au deuxième jour, alors que les deux autres fleurs de Rafflesia ont passé la floraison parfaite ou fleurissent au septième jour. Il a admis qu'à Gam, il y avait 13 points de dispersion de la population de Rafflesia, dont la plupart est dans la zone autour du lac Maninjau. Rafflesia est une plante rare et protégée par la loi numéro 5 de 1990 concernant la conservation des ressources naturelles biologiques et ses écosystèmes. Ensuite, l'info de Malang, Java Oriental. La ville de Malang a battu le record du Musée mondial d'Indonésie, ou MURI, pour la catégorie de lecture à l'aide d'engagés avec le plus participants, à savoir 2929 participants. Jeudi à Malang, la directrice exécutive de MURI, Sriwidayati, a déclaré qu'une activité similaire sur le thème alphabétisation par le biais de gages abandon dans l'Ouest de Java en novembre 2008 a attiré un total de 1140 participants, avec le nombre de participants atteignant près de 3000. La ville de Malang a renversé le record. Selon Sri, la ville de Malang n'est pas la première fois à enregistrer un record de Mori. Plusieurs records Mori ont été atteints, y compris l'organisation de gymnastique Maumere à l'aide de parapluies avec le plus grand nombre en 2018. La dernière info est venue de Gunung Kidul, Yogyakarta. L'Office de tourisme de la résidence de Gunung Kidul, la région spéciale de Yogyakarta, a organisé Gunung Kidul Beach Camp and Run 2019 samedi, qui a eu lieu à la plage de Watu Kodo. Le chef de la division de marketing et du développement commercial de l'Office de tourisme de Gunung Kidul, Yuni Hartini, à Gunung Kidul, a déclaré que la tendance actuelle des sports de courir est de plus en plus populaire auprès du public. En plus d'être bon marché, courir est un exercice facile, simple et réalisable ensemble. Gunung Kidul Beach Camp and Run 2019 vise à promouvoir le tourisme dans cette région. Serge Ritter, c'était les enfants d'Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 14 décembre. Le 14 décembre 1911, la première expédition qui a atteint le point géographique du pôle sud. La première expédition qui a atteint le point géographique du pôle sud a été dirigée par l'explorateur norvégien Ronald Amundsen. Lui et quatre autres sont arrivés au point du pôle sud, qui était au milieu du continent Antarctique, le 14 décembre 1911, en compétition pour qui a mis le pied sur le point du pôle sud de la Terre avec l'explorateur britannique Robert Falcon Scott. Le 14 décembre 1981, Israël a capturé le plateau Golan. Le plateau Golan est un plateau dans les régions frontalières d'Israël, du Liban, de la Jordanie et de la Syrie. Auparavant, le territoire était la Syrie, mais Israël a capturé le plateau Golan de la Syrie en 1967 dans la guerre des Six Jours. Au début de la guerre Yom Kippour, en 1973, la Syrie a réussi à la reprendre, mais les contre-attaques israéliennes ont réussi à chasser la Syrie de la plupart du plateau Golan. Dans ce plateau, il y a aussi des collines qui, pendant la guerre israélo-arabe, sont toujours contestées, comme le mont Hermon et le mont Booster. Ces deux collines sont les centres d'observation de l'armée israélienne connue sous le nom d'œil d'Israël. Le 14 décembre 1995, l'accord de Dayton a été signé à Paris. L'accord de Dayton est le nom d'un accord visant à mettre un terme à la guerre yougoslave en cours depuis 3 ans, en particulier pour l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Cet accord a été conclu à la base aérienne Wright-Patterson à Dayton, Ohio. La réunion a eu lieu du 1er au 2 novembre 1995. Les principaux participants étaient le président de la Serbie, Slobodan Milosevic, le président de la Croatie, Franjo Tudman, le président de la Bosnie, Alija Izetbegovic, le négociateur en chef américain, Richard Holbrooke et le général Wesley Clark. L'accord a été signé à Paris, en France, le 14 décembre 1995. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Thank you.
C'était la chanson intitulée « Tanpa kekasihku » qui signifie « Sans mon amant » chantée par Agnes Monica. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, le ministère de Tourisme et de l'Économie Créative encourage les écosystèmes favorables aux startups. Le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Kemen Parekraf, ou l'Agence du Tourisme et de l'Économie Créative, Baparekraf, encourage les écosystèmes et les industries pionnières tout en créant un climat de concurrence propice tant pour les startups étrangères que pour les startups locales. Le ministre du Tourisme et de l'Économie Créative, Men Parekraf, Vishnutama Kusubandio, lors du Forum indonésien de l'innovation à Jakarta le mercredi 11 décembre, a expliqué qu'établir une start-up est extraordinaire et est un choix de carrière préféré des jeunes. Pour cette raison, les progrès technologiques doivent être utilisés ensemble. Vishnutama a annoncé que Kemen Parekraf Baparekraf a lancé un véhicule commun pour créer un écosystème propice aux startups numériques indonésiennes, Go Startup Indonesia. Vishnutama a expliqué que le développement des écosystèmes numériques doit conduire aux intérêts de la nation, aux intérêts nationaux, aux intérêts de l'Indonésie, qui s'est finalement efforcé d'améliorer la compétitivité de la population. Il a invité toutes les parties à faire de cette nation une nation productive grâce à l'économie créative. Il a averti que le peuple indonésien ne devrait pas seulement être le marché cible. Ne laissez pas les produits et marques étrangères qui bénéficieront davantage par rapport au peuple indonésien lui-même. Le développement économique numérique ou la start-up doit prêter attention à l'équilibre des produits numériques et également des produits, des services et des produits de contenu. Les applications étrangères avec un certain nombre d'utilisateurs ou de revenus en Indonésie devraient ultérieurement avoir des entités juridiques et effectuer des investissements directs en Indonésie, pour qu'à l'avenir, une concurrence équitable puisse être créée. Non seulement entre les applications étrangères et locales, mais aussi d'autres sous-secteurs économiques créatifs. Selon Vishnutama, pour réaliser cela, il faut une synergie, une coopération et une collaboration entre les parties prenantes, gouvernementales et non gouvernementales, afin de créer un écosystème de démarrage propice en Indonésie. C'est pourquoi Vishnutama a déclaré qu'il travaillerait avec le Conseil de coordination des investissements, BKPM, et le ministère de la communication et de l'information pour créer l'égalité dans le domaine de la concurrence pour l'application étrangère et l'application locale. La plateforme Go Startup Indonesia devrait attirer des investisseurs pour investir dans la startup, devenant ainsi une arène pour promouvoir et mesurer les capacités de startup. En même temps, c'est un endroit pour trouver un marché éprouvé pour les startups. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
ku bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. Telah cukup lama ku diam di dalam keheningan ini, kebekuan di bibirku tak berdaya. Menemani kesepianku, menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta tulus mendekap jiwaku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta.
C'était la deuxième chanson intitulée Merawat Cinta, qui signifie Prendre soin de l'amour, chantée par Angie. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel visitant la plage Krakal à Yogyakarta. La plage Krakal est l'un des nombreux objets touristiques de plage à Gunung Kidul, Yogyakarta. Cette plage à la pointe sud de Yogyakarta a une beauté extraordinaire. En plus d'avoir une beauté exotique est magnifique, la plage Krakal possède également des vagues adaptées au surf. La plage Krakal a un littoral en pente et est parsemée de sable blanc. De plus, la roche qui orne la majeure partie du littoral abrite des poissons de récifs colorés, tels que des poissons demoiselles ou des poissons papillons à rayures bleues foncées et bleu clair, ainsi qu'un groupe de petits poissons bleus vifs. Pour ceux d'entre vous qui veulent surfer sur la plage Krakal, vous devez d'abord marcher jusqu'à la rangée de rochers au large de la côte, puis rencontrer les vagues qui sont assez difficiles. Le fond de la mer est dominé par le corail, donc pour ceux d'entre vous qui veulent surfer, vous devez être très prudent. Le bon moment pour surfer ici et principalement pendant la saison sèche qui se situe entre mars et septembre, car les vagues sont assez bonnes. Pour surfer ici, vous devez apporter votre propre planche de surf, car il n'y a pas de location de planche disponible sur cette plage. Pour ceux d'entre vous qui veulent simplement se promener sur la plage, n'oubliez pas d'utiliser des chaussures car les rochers sont très coupants. De la plage, vous verrez également des vues des bateaux de pêche qui passent à la recherche d'un endroit stratégique pour la pêche. Vous pouvez également voir des pêcheurs qui sont plongés à la recherche d'umbel, une sorte de petit animal marin qui vit sur les rochers. L'umbel sera ensuite transformé par les résidents locaux en cassang d'arachide. L'emplacement de la plage Krakal est dans le village Ngestiarjo, sous-district Tanjung Sari, région Gunung Kidul, région spéciale de Yogyakarta, peut-être atteint d'environ 2 heures en voiture de la ville Yogyakarta. Vous n'avez pas à vous inquiété car la route vers la plage Krakal est déjà bonne. En chemin, vous trouverez facilement des stands de nourriture et des hôtels. Cette zone côtière de Gunung Kidul est ouverte à partir de 8 heures. Il n'y a pas de billet spécial pour entrer sur la plage Krakal. Pour ceux d'entre vous qui veulent rester autour de la plage Krakal, ne vous inquiétez pas car il y a beaucoup d'hôtels autour de cette plage. Le prix varie également. Autour de la plage Krakal, il y a aussi de nombreux stands de nourriture qui proposent un menu de poissons de mer. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Dan ku takkan lagi menyerah. sekejap kau hancurkan selamanya. Inikah takdir untukku?
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Harry, dont le titre est « Mencintai tuk disakiti ». La suite, nous allons vous présenter l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici l'Indonésie en couleur. La jeune athlète Karisma Evitiarani a réussi à faire de l'Indonésie une célébrité au championnat du monde de para-athlétisme 2019. Non seulement elle a réussi à remporter une médaille d'or, l'athlète en provenance de Simo Boyolali a également été enregistré comme un nouveau record dans la catégorie qu'elle suivait. Auparavant, elle avait participé au tournoi du championnat du monde de para-athlétisme 2019 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 7 au 15 novembre 2019. Cette athlète de 18 ans, présentant des difficultés physiques, avait de meilleures performances que deux autres athlètes italiens et belges, Monica Graziana Contrafatto et J.T. Heinen. Il a obtenu sa médaille d'or au 100 mètres féminin T63. La réalisation des filles a également été appréciée par le gouvernement local. Evi a été invité par le gouverneur de Jawa Central, Ganjar Pranowo, à se rendre à son bureau à la rue Pahlawan, à Semarang. Evi est venu avec deux autres athlètes, à savoir Saptoyoga Purnomo et Tara, qui a remporté la médaille d'or à la compétition Pepa Pernas en 2019. À cette occasion, Evie était ravie de raconter son expérience du match auquel elle a participé à Dubaï. Elle a également eu le temps de montrer l'action lors d'une compétition à Dubaï, à Ganjar. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, a déclaré que son parti continuerait à soutenir et à faciliter les athlètes comme Evie et ses amis dans sa région. Il espère que les jeunes athlètes comme eux pourront continuer à montrer leur réalisation pour pouvoir inspirer d'autres personnes handicapées. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
C'était la dernière chanson intitulée Wanita Terbahagia ou en français La femme la plus heureuse, chantée par Bunga Citra Lestari. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec le magazine musical. Cette fois-ci, je vous présente une chanson intitulée Sampul Surat, qui signifie couverture de lettres. Cette chanson de Kroncong a été composée par Ismail Marzuki. Un compositeur indonésien qui a été très productif a créé des chansons à l'époque de la lutte indonésienne jusqu'en 1958. Mais ses œuvres peuvent encore être appréciées aujourd'hui. L'un d'eux est une chanson intitulée Sampul Surat, qui signifie couverture de lettres. Cette chanson raconte d'une personne qui attend des nouvelles de son amant depuis des années. Après 10 ans, la lettre de son amant est arrivée. Mais ce n'est que la couverture de la lettre. Bien que le cœur soit triste et déçu, il sauve quand même la couverture de la lettre comme souvenir. Bon, chers auditeurs, voici Didi Kempot, dont le titre est Sampul Surat.
Voice of Indonesia.
nanging kape podo ra ngerteni lungamu neng ngendi pirang taun anggonku golehi sepene durung bisa nemoni coba ngelalekake jenengmu saka atiku santenane aku ora nepusi isih tresno sliramu
of Indonesia.
Saksi janjimu kan kembali. Lama sudah diriku menanti, tak sabar rasa hati. Saat tiba di tertolak
kembali. Lama sudah diri menanti di sini, kapan kau kembali?
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.